Bonjour à tous, bonjour Janine, bonjour Yolaine. Bonjour Pascal. Alors je viens à peine d'entrer, installer le système en 4 minutes. Bonjour Marie-André, bonjour Farley. Ni hao, yao yi. Yezu Aini. Alors, vous me permettrez de me préparer un café. Le monsieur en a besoin ce matin. J'avais un rendez-vous. En fait, c'est Daphné qui avait un rendez-vous médical de bonne heure ce matin. Donc, on a couru un peu. Yolaine, bonjour. Manon, bonjour. Bienvenue parmi nous. Immacula, bonjour. Merci, Janine. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Rosie, bonjour. Jean-Gilbert, Rosanie, bonjour. Bonjour à mon père, à ma mère. Merci Pascal. Bonjour Claude. Désolé du bruit, c'est ma cafetière. Claude, ou qu'on ait une réponse moins. Dépendamment de qui côté ou Quimbé, ni de là tes côtes ou tes longues. Non, Bernadette, ce n'est pas férié ici. C'était férié lundi pour la fête des patriotes, la fête de la reine et la fête de dollars. Trois fêtes qui tombent la même journée, alors avec trois appellations différentes. Bonjour Lucie, bonjour Rachel, bonjour Mona, bonjour Cilia, bonjour Chantal, bonjour à la belle-mère. Alors, c'est quoi comme fête en France, Bernadette? Parce que là, j'ai oublié. Denise, Gérard, bonjour. Courage, courage. Je suppose que l'électricité n'est toujours pas revenue. Donc, que le Seigneur vous fortifie et vous garde, Denise et Gérard. Ah, je me débrouille un peu, Rosie. Je me débrouille un peu. Alors, vous avez encore 5 minutes. Et puisque je dis toujours quelle température il fait, donc aujourd'hui c'est pluvieux. En tout cas, ce matin c'est pluvieux. C'est pas une forte pluie, mais juste assez pour mouiller le sol. Ah, ok, c'est le congé de l'Ascension, le jeudi. Ok. Donc les gens vont faire le pont demain, je suppose. Qui d'autre est là que j'aurais oublié de saluer? Non, je pense qu'on est à jour. Ouais. Donc environ 4 minutes, soit pour vous faire couler un café comme moi j'ai fait à l'instant. Allez vous chercher une bouteille d'eau. Bernadette, bonjour. Alors j'ai couru un peu. C'était pour des prises de sang. On a fait exprès d'arriver très tôt, avant, mais vers 6h30, on était là-bas. Et ça n'ouvrait qu'à 7h, officiellement. Mais voilà, la fin est passée peut-être vers 7h10, donc le temps de tout faire, enregistrement, patati patata. Donc je l'ai déposé au travail, je suis venu. Voilà, en 4 ou 5 minutes, j'ai installé le matériel, je commence à avoir l'habitude. Ça aurait été trop compliqué de rentrer à la maison. J'ai un autre rendez-vous ici en ville aussi après, donc. Alors pour ceux qui ont déjà leur Bible, vous pouvez déjà ouvrir dans le passage que nous étudions pour ces 3 semaines. Jérémie 33, on est rendu au verset 2. France, Patrick, bonjour. Soraya, bonjour et bonjour à la petite famille. Tu nous écoutes en allant vers le travail ou tu es à la maison aujourd'hui, Soraya? Guy, bonjour. C'est vrai qu'il y en a qui nous écoutent même dans le métro. Jadis, lorsque je prenais le métro, c'était au début des téléphones. Cellulaire, impossible de téléphoner depuis le métro. Les ondes n'entraient pas, mais depuis, on s'est beaucoup amélioré. On peut même naviguer sur Internet dans le métro. Denise de Laval, bonjour ma soeur. Merci Guy. Je suppose que cet été, Rosie, certains feront comme vous et écouteront depuis le jardin aussi. Mais ce matin, à moins qu'on ait un petit abri, c'est pas l'extérieur qui est agréable. Nathalie, bonjour et bonjour à la petite famille. Bonjour à ma mère. Alors, Soraya, on te souhaite de passer une bonne journée bien au calme. Est-ce que les enfants rentrent pour dîner? Ça va faire une petite pause dans le calme. Mais s'ils restent à l'école pour dîner, tu as toute cette journée pour travailler au calme. Marie-Huguette, bonjour. Babette, Andreas, bonjour. Merci Marie-Huguette. Alors prions et on débute pour ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons d'être dans ta présence et de profiter de cette occasion pour approfondir notre connaissance de ta personne, de ta volonté, de ta pensée. Nous prions que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre compréhension et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Merci pour mes frères et mes sœurs. Visite-les, instruis-les, bénis-les. En ton nom, nous avons prié Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous Jérémie 33, du verset 1 au verset 3, et je reprendrai le verset 2 à quelques reprises par la suite, simplement pour bien s'imprégner du verset que nous étudions cette semaine. Jérémie 33, le verset 1 nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Reprenons le verset 2. « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. » Et on reprend tous une dernière fois ensemble. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors cette semaine, on a vu deux grandes thématiques. On a repris la thématique de la semaine dernière dans le fait que Dieu parle encore aujourd'hui, peu importe nos circonstances et plus encore, dans nos circonstances ardues et difficiles, Dieu parle encore. Mais de surcroît à tout cela, et on l'a vu hier, Dieu agit encore. Et tant dans ce qu'il proclame que dans ce qu'il fait, tant dans ses propos, dans ses paroles, que dans ses actions, notre Dieu est incomparable. Il n'y a aucun autre comme lui. Il les dépasse tous dans la connaissance, dans la sagesse, dans la puissance, dans l'autorité, dans sa capacité d'intervenir, dans les raisons pourquoi il intervient ou non, dans l'amour, dans la grâce, dans la compassion. Notre Dieu reste incomparable. Alors hier, on a vu que c'était l'Éternel qui faisait ces choses. Je m'excuse de la sonnerie, je baisse là. C'est rare. Donc, aujourd'hui, on voit l'Éternel qui conçoit ces choses. Le verbe concevoir, c'est le terme yassar en hébreu, Y-A-S-A-R. Donc, concevoir, yassar, Y-A-S-A-R. Qui veut dire former, façonner, ordonner, établir. Je répète, concevoir, yassar, la traduction ou des synonymes en français seraient former une chose, façonner une chose, ordonner une chose, établir une chose. Hier, on a vu que Dieu agissait. Cette action n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit non plus d'une improvisation divine. Les actions de Dieu sont pensées de toute éternité. Les actions de Dieu sont réfléchies de toute éternité. Ce ne sont pas les événements qui le prennent par surprise. Ce ne sont pas les circonstances de notre vie qui viennent tout simplement se faire connaître à lui lorsqu'elles surviennent. Notre Dieu connaît toutes choses. Éternellement. Il connaît les choses du passé, donc personne ne peut discourir d'histoire avec lui. Il connaît l'histoire dans son ensemble et il sait même pourquoi chacune des choses sont survenues et quelles étaient les motivations intrinsèques et profondes de chacune des choses qui ont été commises. De surcroît à cela, il connaît parfaitement le moment présent. Il sait ce qui a entraîné le moment présent. Il sait ce qui englobe le moment présent et il sait quelle est l'incidence que le moment présent aura sur l'avenir. Et de surcroît à tout cela, il connaît aussi parfaitement et totalement le futur et l'avenir, quel qu'il soit, en quelque contrée que cet avenir se manifeste, auprès de qui que ce soit, quel que soit l'individu qui vient à naître, Dieu connaît totalement, totalement son histoire, son présent, son futur. Mais ici, on nous dit que l'Éternel, dans toutes ses actions, c'est une action qui est réfléchie. Le verbe concevoir, c'est penser à l'avance à une action. C'est préparer d'avance une chose. Alors, ce qu'on peut trouver ou ce qu'on peut présenter comme explication ce matin, et je le dirai dans une phrase qu'on développera par la suite, c'est que l'action de Dieu cadre toujours dans le plan de Dieu. L'action de Dieu, pour ceux qui prennent des notes, l'action de Dieu cadre toujours dans le plan de Dieu. Dieu ne change pas ses plans. Dieu ne change pas sa volonté. Dieu ne change pas ses desseins. Ses desseins s'accomplissent. Et lorsque Dieu pose une action, cette action fait partie du plan global de Dieu. Et c'est là où nous devons aussi apprendre que Dieu ne répond pas aux caprices de l'être humain. Dieu ne répond pas à toutes les demandes de l'être humain. Il y a un verset très clair dans le Nouveau Testament qui nous dit « Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire votre propre estomac ou vos propres passions. » Dieu ne peut répondre et Dieu ne va agir que dans le plan éternel qui a été établi. On a l'impression, en tant qu'humain, qu'on est des fruits des circonstances et des situations. Qu'une circonstance inopinée arrive ou survient, qu'une circonstance imprévue survient, et que celle-ci va bousculer l'ensemble de notre vie. Cette circonstance peut être inconnue de moi qui suis un être humain faible, mais cette circonstance n'est pas du tout inconnue de la part de Dieu. Il connaît l'ensemble de ce qui se passe et dans ce plan, dans cette connaissance, il a établi une volonté, il a établi un plan. Chose aussi qu'on doit comprendre lorsqu'on nous dit que l'action de Dieu cadre toujours avec le plan de Dieu, ben l'action de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, je disais, dimanche, il y a des gens parfois qui vont demander quelque chose à Dieu, mais cette chose-là ne cadre pas avec le plan de Dieu. Dieu va vouloir une chose et nous, on va en vouloir une autre. Dans notre quête, dans notre demande, dans notre désir, on va prier, prier, prier. On va gémir, gémir, gémir. Mais si l'action va à l'encontre de la volonté de Dieu et à l'encontre du plan de Dieu, mais cette action ne se posera pas de la part de Dieu. Je disais parfois, des gens sont mariés, puis à un moment donné, le mari ou l'épouse dit « Seigneur, je veux le mieux pour mon époux, viens le chercher. Seigneur, je veux le mieux pour mon épouse, viens la chercher. » Foncièrement, en fait, ils veulent être libérés de leur engagement marital. Mais ils disent à Dieu, avec un couvert de grande spiritualité et de grand altruisme, il dit « Seigneur, viens le chercher, bénis-le, ramène-le près de toi, ça va nous faire du bien à tous. » Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Et à coup sûr, c'est un exemple poussé au maximum, c'est un exemple un peu futile ou ludique, mais c'est le genre de chose qu'on peut demander à Dieu et que Dieu ne répondra pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette demande n'est pas pour l'avancement du royaume de Dieu, n'est pas pour cadrer dans le plan de Dieu, mais tout simplement pour cadrer avec ma personnalité, avec ma volonté personnelle. Un peu comme lorsqu'on dit « Seigneur, viens m'aider dans ce travail », alors qu'on travaille au noir. Seigneur, protège-moi de tout incident et de tout accident, alors que le travail qu'on est en train de faire est illégal. C'est comme si on demandait, et là je pousse à l'extrême, on demandait à Dieu, ben Seigneur, viens m'aider à faire un hold-up. Ça ne se passera pas. Pourquoi? Parce que le hold-up va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu dit, tu ne voleras pas. Donc par conséquent, Dieu ne peut pas répondre à cela. Donc, il faut faire attention à ce que nos prières puissent cadrer avec le plan de Dieu, puissent cadrer avec la volonté de Dieu. Et c'est là où plusieurs croyants en viennent à être frustrés en disant, le Seigneur ne répond jamais. Ce n'est pas que le Seigneur ne répond pas, c'est que le Seigneur, dans sa réponse, doit toujours cadrer avec son plan parfait et avec sa volonté parfaite, et non pas avec notre volonté et avec nos caprices. Et ce n'est pas que nos caprices soient toujours mauvais. Parfois, c'est un désir qui est noble. Parfois, c'est un plan qui est noble. Mais il ne cadre pas dans le temps ou dans le type d'action que Dieu veut faire. On demande que le Seigneur intervienne d'une telle manière auprès de quelqu'un. Mais le Seigneur dit non, je veux intervenir différemment. Je prendrai comme exemple à l'époque où j'avais tous les traitements et puis l'Église était en jeûne et en prière pour moi. Il y avait des gens qui priaient, Seigneur, tu dois le guérir, Seigneur, il faut que tu le guérisses. Mais le Seigneur a tardé et le Seigneur n'a pas fait de guérison miraculeuse comme j'aurais pu vouloir ou comme on aurait pu vouloir. Mais il m'a laissé passer à travers tout le processus. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan différent que celui qu'on pouvait demander. Et voilà pourquoi Jésus va enseigner à ses disciples la prière en commençant par « Seigneur, que ta volonté soit faite » avant même que la prière ne débute avec des requêtes. Jésus va nous enseigner « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux ». Ça veut donc dire que notre prière doit cadrer, nos demandes doivent cadrer avec la volonté de Dieu et non pas la réponse de Dieu cadrer avec notre volonté personnelle. Il arrive parfois effectivement que notre volonté et la volonté de Dieu cadrent. Et ça, c'est merveilleux. Quand ce que je veux, c'est ce que Dieu veut, c'est génial. Mais quand ce que je veux diffère de ce que Dieu veut, ce qui va primer, ce n'est pas ma volonté, mais c'est sa volonté. Et là, ça suscite une question pour toi et pour moi. Est-ce que je suis prêt à accepter la volonté de Dieu? Dans le cas de Jérémie, sa requête pouvait être « Seigneur, sors-moi de là ». Mais le Seigneur ne l'a pas sorti de là. La requête de Jérémie aurait pu être « Seigneur, évite-moi les troubles ». Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas cela. En fait, au début même du ministère de Jérémie, il lui dit, avant même que je t'ai établi, ou que tu sois conçu, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et il lui annonce, à la première journée de son ministère, qu'il va avoir des moments difficiles, que les rois et les leaders de son époque vont se liguer contre lui. Donc, à la base, il est déjà informé que son ministère va être difficile. Jérémie aurait pu prier, « Seigneur, donne-moi quelque chose de plus simple. Seigneur, donne-moi quelque chose de plus tranquille. Donne-moi un peu de quiétude, un peu de paix. » Non, Dieu lui dit, « Regarde, ils vont te faire la guerre, mais toi, ne tremble pas. Tu vas passer par des moments difficiles, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des douleurs, mais surtout, ne tremble pas, de peur que moi, je ne te fasse trembler. » Alors Dieu est en train de dire à Jérémie, ma volonté, c'est qu'il se passe toutes ces choses-là. Et dans ma volonté, c'est que tu tiennes ferme malgré la douleur et malgré l'adversité. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que dans un des moments les plus difficiles que Jérémie ait à traverser, Dieu se présente à lui. Alors qu'on l'a reclus dans un donjon, dans une prison, qu'il a été oublié peut-être par ses concitoyens, et surtout qu'on a tenté de faire oublier à ses concitoyens, Dieu ne l'a pas oublié, et Dieu le visite, et Dieu continue son œuvre en lui et à travers lui. Mais Jérémie est confronté à la même, au même dilemme que toi et moi. Dans ces moments difficiles, allons-nous croire effectivement que Dieu est encore au contrôle? Quand la maladie s'empare de toi, est-ce que c'est la maladie qui règne ou c'est Dieu qui règne? Quand les difficultés commencent à s'amonceler dans ta vie, qui est encore au contrôle et au pouvoir? Les circonstances et les ennemis ou Dieu? Vers qui portes-tu le regard? Te présentes-tu face à ces situations et à ces circonstances comme quelqu'un qui a été abandonné et délaissé? Ou comprends-tu et sais-tu que Christ est avec toi? Dans les moments difficiles, ce qui nous rassure, c'est de savoir que nous n'avons pas été abandonnés, mais que Christ est avec nous. Mais le plan de Dieu doit se manifester et nous devons l'embrasser, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu en es rendu, je ne sais pas quelles sont tes circonstances et tes situations, mais sache que ce que tu passes aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu le connaissait d'avance. Et Dieu avait un plan. Peut-être que la délivrance de Dieu n'est pas instantanée, mais peut-être que l'adversité que tu traverses va développer chez toi certaines choses qui se doivent d'être développées pour une action plus tard. Je suis convaincu aujourd'hui que je ne suis pas le même homme qu'avant la maladie. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, je ne suis pas le même pasteur qu'avant la maladie. Je suis convaincu aujourd'hui de ne pas être le même enfant de Dieu que je l'étais avant la maladie. Cette maladie m'a transformé. Mais de surcroît à cela, cette maladie a aussi développé en moi des choses qui me sont utiles pour accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et étant passé par ce que j'ai eu à passer et ayant bénéficié de la grâce, du soutien et de la présence de Dieu dans ces moments-là, aujourd'hui je peux me présenter face à une adversité et dire: je t'ai déjà vu, je t'ai déjà regardé droit dans les yeux, je t'ai déjà confronté et je t'ai déjà vaincu une première fois et on va le faire une deuxième fois ou une troisième fois ou une quatrième fois. Pourquoi? Parce que je suis fort de l'expérience que le Seigneur m'a donnée. De surcroît à cela, et plusieurs personnes m'ont dit en avoir profité. Lorsque j'étais malade, je parlais exactement de ce que je pouvais ressentir et de quel était mon engagement avec Dieu et de quel était mon attachement, comment je m'accrochais à Dieu. Et plusieurs personnes sont tombées malades par la suite et m'ont dit: Florent, on t'a vu faire et aujourd'hui, on fait comme toi. Moi-même, j'ai regardé d'autres personnes qui ont confronté la maladie ou qui ont été confrontées par la maladie ou par les adversités ou par les moments difficiles et de voir comment ils ont réagi face à ces expériences, ça a été bénéfique pour moi le jour où moi-même j'ai été confronté à des moments difficiles. Alors les choses que tu traverses aujourd'hui, tu peux ne pas les comprendre. Mais elles font quand même partie du plan divin pour toi. En autant que tu laisses effectivement Dieu te façonner, en autant que tu laisses effectivement Dieu accomplir sa parfaite volonté en toi. Et je disais dimanche, il y a deux façons de se positionner face à la volonté de Dieu. En fait, trois. On peut s'y opposer, et ça serait une grave erreur. On pourrait subir la volonté de Dieu. Donc, ne pas être content, mais ne pas ouvertement se manifester contre cette volonté, la laisser s'accomplir tout bonnement, ce que j'appelle subir la volonté de Dieu, ou je peux embrasser la volonté de Dieu. Dire: Seigneur, tout ce que tu fais est parfait, et j'aime ce que tu fais, et montre-moi, Seigneur, comment je peux m'imbriquer dans cette volonté qui est tienne. Donc, trois options par rapport à l'action de Dieu. Quelle est la réponse de Jérémie? Va-t-il s'opposer à la volonté de Dieu, qui pour un temps permettait qu'il soit en prison? Va-t-il subir en étant frustré et en se tournant les pouces tant qu'il est dans la prison? Ou va-t-il œuvrer à même la prison? On a un exemple merveilleux dans les Écritures, Paul et Silas, qu'on a mentionné à plusieurs reprises à travers les dernières journées. Paul et Silas sont battus. Paul et Silas sont meurtris. Puis après qu'on les ait flagellés, qu'on les ait frappés, qu'on les ait malmenés, ils sont mis en prison. Comme nous tous, Paul et Silas pourraient être fâchés et dire « Seigneur, on a déployé notre zèle. » Et voilà ce qui s'est passé. On a vu des gens comme Jonas dire « Seigneur, j'ai déployé mon zèle, puis regarde ce que tu fais. » Comme Élie, « Seigneur, j'ai déployé mon zèle, je suis le seul qui reste maintenant. » Donc, on pourrait être frustré de ce que Dieu ne nous ait pas secouru. On pourrait dire « Seigneur, j'ai mal, je suis fâché, je suis frustré, je suis pas content avec la situation. Alors, quand tu me délivreras, je prendrai une autre attitude. » Ou on pourrait, comme Paul et Silas, adopter la troisième option, celle qui est d'embrasser la volonté de Dieu. La Bible nous dit que, alors qu'ils ont été jetés au cachot, ils louaient Dieu et tous les prisonniers les entendaient. Ce sont des hommes qui ont été flagellés, meurtris, blessés, injustement, et qui ont subi toutes ces atrocités et ces sévices parce qu'ils étaient croyants et parce qu'ils s'étaient manifestés pour Christ. Donc, ils avaient fait leur travail dignement, justement, et malgré tout, ils ont été frappés et lancés en prison. Ils auraient pu être frustrés. Ils auraient pu arrêter de louer. Et pourtant, ils se sont mis à louer. Et la Bible nous dit que tous les prisonniers les entendaient. Et face à ce temps en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le tremblement de terre est survenu, le geôlier et toute sa famille, voyant que les prisonniers ne s'étaient pas échappés et que c'était à cause de la présence de Paul et de Silas, ont donné leur vie à Christ. Ça, c'est un exemple qu'on voit dans le Nouveau Testament. Je peux vous donner un autre exemple dans l'Ancien Testament. Rappelons-nous de Joseph. Joseph qui est vendu par ses frères. Joseph qui est injustement accusé par la femme de Potiphar. Joseph qui va croupir en prison, qu'on va oublier en prison. Et à un moment donné, miraculeusement, par la grâce de Dieu, il sort. Il gravit les échelons jusqu'à devenir le principal bras droit du Pharaon. Lorsque la famine éclate en Israël, la famille de Jacob, c'est les fils de Jacob, donc les frères de Joseph, vont quitter Canaan, vont quitter leur territoire et vont aller jusqu'en Égypte. Au moment où les frères vont reconnaître Joseph, ils vont avoir peur. Et Joseph va les rassurer. Les frères sont en train de dire « Pardonne-nous de l'offense qu'on t'a faite. Pardonne-nous de t'avoir vendu. Pardonne-nous de t'avoir bousillé la vie. » Et Joseph va dire « Non, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Ce n'est pas vous qui avez fait ces choses. C'était Dieu qui préparait les choses pour qu'aujourd'hui, je puisse vous secourir alors que vous êtes dans la famine. Pour qu'aujourd'hui, je puisse veiller sur vous. » Alors des fois, oui, on passe par des moments difficiles qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Mais ces moments difficiles seront une bénédiction pour nous ou pour d'autres. Dans le plan parfait de Dieu, dans quelques mois, dans quelques années, voire dans quelques décennies. Le malheur pour nous, c'est qu'on ne regarde que le moment présent et qu'on connaisse très peu l'avenir. Si on saisissait l'avenir, assurément, on pourrait mieux s'adapter aux choses et mieux comprendre et mieux accepter les choses. Mais c'est là où la foi vient en compte. Est-ce que j'ai assez de foi en Dieu pour savoir que tout ce qu'il fait est parfait? Est-ce que j'ai assez de foi en Dieu pour croire que tout ce qu'il fait est parfait? Est-ce que j'ai assez de foi en Dieu pour croire que ce qu'il fait dans ma vie ou ce qu'il laisse survenir dans ma vie actuellement servira éventuellement à sa gloire? Les disciples sont montés dans une barque alors que Jésus avait dit « Passons de l'autre bord ». Et quand la tempête s'est déchaînée, ils ont paniqué, pensant qu'ils allaient périr. Est-ce qu'au milieu de ma tempête, je peux me tourner vers Jésus et lui dire « Seigneur, j'ai encore confiance. Seigneur, je sais que nous arriverons à bon port parce que tu nous as dit que nous arriverons à bon port. » Alors aujourd'hui, on le rappelle, l'action de Dieu cadre toujours avec le plan de Dieu. Et tu vas me dire, oui, mais je veux connaître le plan de Dieu. Et dans certains cas, le Seigneur nous le révèle. Mais dans d'autres cas, il nous demande simplement de suivre le mouvement par la foi, d'avancer par la foi. Dans la sombre vallée, David ne voit pas la fin. Il ne voit pas l'éclaircie. Il sait seulement que l'Éternel est avec lui. Et il ne craint aucun mal parce que l'Éternel est avec lui. Lorsqu'il voit le danger apparaître, il sait qu'il passera à travers. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où lui vient le secours. Le secours n'est pas arrivé. Il ne voit pas le secours se manifester encore. Mais il sait que le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et parce que je sais que le secours me vient de lui, alors je m'endors. Et je me réveille en paix parce que je sais qu'il veille sur moi. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Tu as tout simplement besoin de lui faire confiance. Parce que tout ce qu'il fait cadre avec le plan parfait qu'il a établi. Rejetteras-tu? T'opposeras-tu? Subiras-tu? Où embrasseras-tu la volonté de Dieu? Prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette parole qui nous amène à réfléchir sur notre maturité spirituelle, sur l'état de notre foi, sur la confiance que nous avons envers toi. Nous comprenons, Seigneur, que tout ce que tu fais cadre avec ton parfait plan et ta parfaite volonté. Et nous disons parfait, est parfaite parce que ton plan et ta volonté sont parfaits. Il n'y a chez toi aucune faille. Il n'y a chez toi aucune imperfection. Ton action est parfaite dans le temps, dans la portée, dans la raison d'être de ton action. Et nous, Seigneur, nous nous y... Plions avec désir et avec bonne volonté, où nous la subissons, cette volonté. Alors je prie, Seigneur, que mon frère et ma sœur puissent effectivement apprendre à embrasser ta volonté, en se rappelant qui tu es, en se rappelant que tout ce que tu fais est parfait, en se rappelant le cœur de Père qui t'habite envers nous, qui sommes tes enfants. Seigneur, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent encore ce matin, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu ne fais pas. Seigneur, je te fais confiance que cette journée est placée sous le contrôle de ton esprit. Quoi qu'il survienne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes et que tu me mènes à bon port. Nous t'avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin 8h30 pour notre rendez-vous habituel. Demain, c'est journée de jeûne et de prière pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et peut-être simplement un petit rappel comme ça, faites confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait et il fait bien ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse.